compétente pour y répondre.
I'm pretty sure you have some.
Je suis à peu près certaine que vous avez des questions. Ça serait...
While you think about...
Pendant que vous y pensez, pour que vous le sachiez, le COMEX a beaucoup de questions. En fait, nous avons déjà fait parvenir deux séries de questions aux promoteurs. Il y a quelqu'un qui les a vues sur notre site Web. Je vois que quelqu'un acquiesce. Nous avons envoyé aux promoteurs quelques 200 questions. Il y a des questions qui n'ont pas encore trouvé réponse. Et probablement, non pas probablement, mais certainement, qu'après cette audience, nous aurons d'autres questions, certaines qui se fondent sur des documents récents d'informations que le promoteur nous a données, et bien sûr, vos questions feront partie de cette deuxième série de questions. C'est pourquoi c'est important pour vous de vous exprimer. Ne soyez pas timide. Alors, nous avons parcouru une très longue distance, 3 heures d'avion pour venir vous entendre. Alors, vous avez la parole.
Roger,
Paul Scapio de Chibougamo. Alors, je représente trois communautés. Je suis très content que, en fait, on nous permette de poser des questions lors de ces audiences. Ma première question porte sur l'environnement et la façon dont le concentré sera transporté. Je sais que vous avez parlé de transport par camion et ensuite par le rail. Mais nous, on pense toujours à l'air, au territoire et aux eaux, aux éléments. Est-ce que
recent information that I use?
Bon, d'après l'information que je lis de façon générale, lorsque je lis les études qui sont faites à cet égard, donc la qualité de l'air, de la terre, etc. Alors, est-ce que les conteneurs seront bien couverts? En fait, très souvent, les particules, malheureusement, contaminent les rivières et les lacs et l'air. Il y a la question des nominations. J'ai vu beaucoup de changements au fil des ans. Lorsque je travaillais à la construction, et de nos jours, on voit beaucoup plus de machinerie. Et ce que j'aimerais souligner à cet égard, c'est que lorsqu'on regarde le nombre de personnes qui travaillaient à l'époque, et maintenant, combien de gens sont embauchés seulement pour opérer les machines. Je peux vous dire que de 15 à 20 personnes travaillent lorsqu'il y a du slashing. Et ensuite, on voit une ou deux machines seulement. Et ça, malheureusement, ça réduit beaucoup le nombre d'emplois que pourraient occuper les CRI. Merci beaucoup.
Thank you very much.
Merci beaucoup, Monsieur Scapio.
So I will ask BlackRock if you...
Je vais demander au promoteur de BlackRock s'il pourrait nous donner des détails concernant la dispersion de la poussière ou des particules de se concentrer. Comment est-ce que vous allez atténuer ou contrôler la qualité de l'air lorsque vous allez transporter le concentré par camion jusqu'au train? Tout d'abord, le concentré sera chargé d'un hangar couvert pour réduire considérablement les émissions de poussière dans l'air. Après cela, nous allons utiliser, je l'espère, nous allons bien sûr utiliser en fait des wagons de train qui sont bien couverts jusqu'à la Syrie. On ne s'attend pas, par exemple, à utiliser les camions pour transporter le concentré de la mine à la Syrie, Gagnon. Mais si ça devait être le cas, nous assurerons, en fait, de couvrir les camions avec des bâches. Je crois que ceci répond à la première question. Deuxième question. Pour ce qui est de la deuxième question, nous parlons plus, en fait, d'emploi pour le long terme. Ce matin, nous avons eu une réunion très intéressante ici à Chibougamau pour parler de la formation de nos employés éventuels en phase avec nos besoins. Par exemple, au lieu d'avoir 20 personnes ou plus, bon, quelquefois, il y a une machine qui fonctionne avec un opérateur, peut-être deux. Mais pour le long terme, ce que nous voulons faire, c'est de former les gens de la nation Cree pour ensuite les embaucher pour une période, en fait, de 42 ans. C'est ce qu'on prévoit pour l'instant, pour la durée du projet. C'est ce que nous voulons faire. Et nous allons les former pour ce faire. C'est pourquoi, avant, nous avons eu des discussions, mais ce matin, nous avons eu une véritable réunion en personne pour voir comment ces cours de formation pourraient être donnés et pourraient concorder, bien sûr, avec nos besoins. Est-ce que ceci répond à votre question? Oui, pour le long terme. Bon, moi, ce qui m'inquiète, ce sont les machines qui sont utilisées. On veut que l'argent revienne ici, soit réinvesti dans notre région. Merci.
Hey, Arthur Bosom.
Bonjour. Arthur Bosom. Merci et bienvenue. Bon, pour les routes, on a parlé de l'air. Moi, je sais, j'ai déjà travaillé dans une mine. Je sais qu'il y a beaucoup de poussière qui s'échappe d'un site.
Like here to the hydro, the highway to the.
Est-ce que les routes seront pavées en fait ou ce sont des routes de gravier? L'autre question porte sur l'emploi. J'ai déjà travaillé dans une mine et j'ai vu qu'il y avait des emplois pour les Cree. Lorsque les Cree étaient congédiés, ils étaient remplacés par des non-autochtones. Et ça s'est poursuivi longtemps. Et il y a quelques années après avoir quitté, que je me suis rendue sur le site, en fait, il n'y avait que 3 ou 4 % des travailleurs, en fait, qui étaient là. Ils avaient été remplacés par des non-autochtones. Alors, j'ai de l'expérience en exploitation minière parce que j'ai déjà travaillé dans une mine. Et je sais qu'il y a beaucoup de poussière qui s'échappe d'un site. Et c'est mauvais pour la santé. J'ai dû quitter, justement, pour des problèmes de santé.
It's like you gotta control the dust.
Il faut contrôler la poussière, bien sûr. Parce que c'est très mauvais pour la santé. Une autre question que j'aimerais poser, c'est lorsque les cris, en fait, veulent faire partie de la population active. Bon, les cris que je connais qui ont été congédiés, ils n'avaient aucun soutien pour qu'ils puissent revenir travailler à la mine. J'ai un neveu qui travaille à la mine à l'heure actuelle. Lui, on l'a congédié. Mais en fait, il buvait beaucoup là quand il travaillait. Et puis, il a cherché de l'aide. Et il est retourné à la mine après avoir obtenu de l'aide. Il a été réembauché. Maintenant, il travaille encore à la mine. Des choses comme ça. Il faut prévoir de l'aide pour nos employeurs s'ils ont des problèmes. Il faut trouver des moyens, en fait, pour ces gens qui ont des problèmes au travail. Surtout sur les sites où les territoires Cree. Surtout pour les travailleurs Cree qui travaillent dans les mines. Merci beaucoup, M. Bosom. La première question porte sur la poussière, la dispersion de la poussière, les routes. Quel genre de mesures d'atténuation avez-vous prévues pour les routes? Monsieur Bossum a fait référence aussi à des emplois occupés par des Autochtones, je ne sais pas depuis combien de temps, mais en 2008, en fait, il y avait des règlements. Mais est-ce qu'on maintenant, on a prévu de nouvelles mesures qui s'assurent qu'on mesure la qualité de l'air comparé à il y a quelques années? Est-ce qu'il y a d'autres mesures que les mesures qui avaient été mises en œuvre il y a quelques années? En fait, pour ce qui est des émissions de la poussière, pour réduire les émissions de la poussière sur la route, ce que nous voulons utiliser, c'est l'eau. Ce que j'ai vu au cours de mes 25 ans d'expérience dans l'industrie minière, ce ne sont pas en fait, nous utilisons de l'eau lorsqu'il faut réduire les émissions de poussière. Ce n'est pas la compagnie proprement dite qui décide. Ce sont les employés et les superviseurs eux-mêmes qui décident quand il faut mettre de l'eau sur la route. S'ils en ont besoin pendant 24 heures, parce que pendant le quart de soir, ils en ont besoin. Ça, j'ai déjà vécu cette expérience. C'est ce que j'ai retiré de mon expérience pour ce qui est de l'exploitation minière. Il y a eu beaucoup d'améliorations à cet égard au cours des 25 dernières années. Alors, ce sont les employés et les superviseurs maintenant qui s'occupent de mettre en place des mesures. Lorsque j'ai commencé dans cette industrie, au début des années 90, en fait, c'était décidé par la gestion. Mais maintenant, ce sont les employés qui décident. Pour ce qui est de l'emploi, il y a une question qui a été posée concernant les politiques en place. Pour ce qui est d'embaucher les membres de la population, mais aussi des mesures de rétention pour garder les gens des communautés. Il y a des mesures qui doivent être prises ici qui appellent des solutions précises pour qu'on puisse retenir les gens, pour qu'on puisse retenir les Autochtones. Bon, revenons à l'exemple de M. Bossum. C'est la réalité. Un problème d'alcoolisme, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a des mesures, en fait, pour retenir les gens? Ou s'ils ont des problèmes, est-ce qu'on peut les soutenir, les aider pour qu'ils puissent ensuite être réembauchés? Pour ce qui est des effectifs, en fait, il y a quelques minutes, j'ai parlé de la formation. Si nous parlons de formation et du fait qu'il faut investir dans la formation des membres de la communauté Cree, c'est que l'on veut embaucher des gens de la nation Cree. Nous n'avons pas vraiment de chiffres fermes là-dessus. Nous n'avons pas de cible à atteindre. Mais nous avons l'entente Balioski et dans cette entente, il est stipulé que nous allons maximiser l'embauche des Cree et nous allons essayer de retenir le plus de Cree possible dans nos effectifs. À l'interne, au sein de la compagnie, à ce stade-ci, nous sommes une compagnie très jeune. Nous aimerions aussi pouvoir accueillir beaucoup de membres de la communauté de la nation Cree. Et en fait, ça a toujours bien fonctionné, en fait, d'avoir beaucoup de Cree au sein de la compagnie. Et nous voulons améliorer la situation. Bon, à l'époque, ça n'était pas parfait. Vous connaissez cette expérience, nous la connaissons aussi. Maintenant, nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour embaucher le plus grand nombre de membres de la nation Cree dans notre compagnie. Bon. Je pense qu'on peut parler de politique en ressources humaines au sein de la compagnie. Lorsqu'il y a des problèmes de drogue ou d'alcool, est-ce que vous avez, en fait, du soutien pour les gens qui ont des problèmes mentaux aussi ou qui ont des problèmes d'abus de substances, etc.? Avez-vous des politiques, en fait, pour aider les gens, que ce soit des cris ou des non-cris? C'est une situation qui peut toucher tout le monde. Même chose. Nous n'avons pas vraiment de politique à cet égard. Comme j'ai déjà dit, notre compagnie est jeune et nous avons commencé à travailler à des politiques, mais pour l'instant, ces politiques ne sont pas prêtes à être partagées. Mais bien sûr, nous allons nous occuper de la façon dont on traite nos gens et de la façon dont on pourrait aider les gens qui pourraient éprouver des problèmes de temps en temps. Et en travaillant ensemble, il est certain que nous allons trouver des solutions pour retenir les gens au sein de la compagnie. Est-ce que ceci répond à votre question, M. Bossum? Je pense que oui. Alors, chers collègues, n'hésitez pas, si vous avez des choses à ajouter, allez-y. Brian? L'une des choses qu'on a abordées, c'était une politique de la deuxième chance pour quelqu'un, par exemple, qui aurait des problèmes et qui a besoin d'aide pour être réembauché. pour le remettre en fait sur la bonne voie, pour qu'elle puisse reprendre un mode de vie sain. Pour ce qui est en fait des mines, Goldcorp a mis de côté une aire ou un espace spécial pour que les gens puissent manger ensemble. Et les employés ont donc un endroit pour se détendre loin de du travail. Ça, on pourrait peut-être en parler un peu. Autre chose qui est importante et qui a déjà été mise en place, c'est le fait de donner aux employés le choix de la durée de leur car. Bon, ils peuvent peut-être avoir une suite de cars sur une période de 2 semaines ou plus, et ensuite, ils vont rentrer chez eux pour une période plus longue. Alors, là, on n'est pas tout à fait devant la même situation, parce que c'est une mine qui est isolée. Mais de toute façon, il y a peut-être des choses du point de vue culturel que vous pourriez, en fait, mettre en place pour vous aider à mieux exploiter votre mine. S'il y a des commentaires là-dessus, je pense que ce sont des choses qu'on pourrait proposer à des gens qui cherchent un travail. Surtout lorsque vous allez commencer vos opérations. Merci, Ryan. D'autres précisions, questions? En ce qui a trait à la présentation, vous venez d'entendre. Allez-y, monsieur. Monsieur ici, là. Monsieur Denton. Bon après-midi, je m'appelle Sydney Konechich. Je viens de Ujibugumu. Je suis très content de voir que beaucoup de gens sont rassemblés ici et qui sont venus pour écouter les modifications apportées au projet. Merci beaucoup à ceux qui ont présenté le projet. La question que j'aimerais soulever, c'est plutôt une précision. Il y a une diapositive où on parlait du fait qu'ils espéraient transporter le minerai par rail. Et si ça n'est pas le cas, le minerai sera transporté par camion. Mais est-ce que le plan est encore de le transporter, même si le tronçon de voie ferrée ne sera pas construit à temps? À l'avenir, est-ce que vous allez changer le mode de transport du minerai si le tronçon ne devait pas être construit? Oui, comme je l'ai dit dans ma présentation, de Shibugamo jusqu'à Saguenay, il n'y a pas de problème à cet égard. Nous allons transporter le concentré par train. Mais pour le petit tronçon, la petite distance entre la mine et le réseau CN, ce que nous voulons faire et l'option que nous privilégions de beaucoup, c'est d'avoir le tronçon en place à temps, que nous obtenions le financement pour ce faire. Et nous espérons que nous n'aurons pas besoin d'utiliser le camion. Mais cette option, c'est une position de repli si le tronçon de voie ferrée ne devait pas être construit à temps. À ce moment-là, pendant un court laps de temps, nous allons procéder par camionnage. Mais nous cherchons pour l'instant des moyens pour financer le tronçon de voie ferrée. Pour aller plus loin là-dessus, les critères qui vont déterminer si oui ou non le concentré sera transporté par train, en fait, c'est seulement les finances là, qui manquent. Oui, est la réponse. Le plan est là et nous savons exactement où le tronçon sera installé. Alors, nous sommes prêts, mais nous avons besoin du financement. Y a-t-il d'autres questions, des précisions? Allez-y, bienvenue. Je m'appelle Wally Opachi. Je suis agent de formation pour l'organisation et je travaille aussi avec les familles impactées. Ryan, le commentaire que vous avez fait en ce qui a trait au quart et à la durée de travail, je me disais, à quelle fréquence est-ce que nos gens dans toutes les communautés demandent à avoir des pauses traditionnelles, des pauses pour se livrer à leurs activités traditionnelles, que ce soit pour aller chasser les outardes ou d'autres activités. Bon, c'est important du point de vue de leurs horaires. Il faudrait permettre aux gens de poursuivre leur mode de vie traditionnel et de montrer aux jeunes qu'il faut de telles pauses pour la chasse. Et aussi, si c'est permis, dans notre communauté, nous avons en fait des périodes qui sont prévues pour ça. Les gens peuvent prendre un congé pour aller se perfectionner. Par là, j'entends que ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'après avoir travaillé pendant 3 années consécutives avec l'organisation, s'ils veulent poursuivre, s'ils veulent, par exemple, avoir un travail un peu plus sophistiqué, un peu plus difficile, ils peuvent prendre un congé pour aller se former, suivre une formation plus avancée. Est-ce que c'est une possibilité? Parce que trop souvent, j'ai vu que les membres des Premières Nations qui étaient journaliers, qui étaient chauffeurs de camions, des choses comme ça. J'aimerais que nos gens puissent avoir un cheminement de carrière et travailler dans d'autres domaines de l'industrie minière, qu'ils puissent travailler, par exemple, comme chimistes. Alors, j'aime beaucoup cette idée. J'aimerais cette idée qu'on leur offre une telle formation. Pour revenir à ce qu'a dit Ryan, en fait, c'est pour mettre un peu la cerise sur le sundae de ce qu'il a dit. Une autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la chose suivante. L'idée du développement, les notions qui sous-tendent le développement. Quelquefois, cette notion me trouble parce que votre notion du développement et notre notion de développement, ce sont deux choses différentes, surtout pour ce qui est de votre perception de la vie. Par exemple, la qualité de vie. La qualité de vie, du point de vue non autochtone, est tout à fait différente par rapport à notre perception. Je sais que dans votre présentation, pas celle-ci, mais dans une autre présentation que vous nous avez faite, la qualité de vie pour un cri est totalement différente de celle d'un non-autochtone. D'une certaine façon, il faudrait trouver un moyen de combiner ou d'intégrer les deux notions. Parce que ça, c'est long pour que les gens puissent s'ajuster à ce concept, qu'ils puissent en fait l'intégrer dans leur vie. Lorsque j'y pense, lorsque j'étais au sommet de la montagne, d'une montagne avec mes frères ici, on était là au sommet de la montagne et je me suis dit, quelle est la définition d'une compagnie ou d'un travailleur de la beauté lorsque vous êtes au sommet d'une montagne et que voyez ce paysage majestueux devant vous? C'est magnifique. Mon grand-père aurait dit, wow! Regarde tout ça. Je me demande, en fait, d'où viennent ces lynx, ces renards. Alors, voilà un orignal ici, là où je vais chasser généralement. Mais la définition du développement d'une compagnie est tout à fait différente. Alors, la qualité de vie, c'est différent pour les autochtones et les non-autochtones. Et je me demande combien ce processus d'intégrer, d'assimiler ces valeurs va durer. Nous avons beaucoup changé ici, les gens de notre communauté. Il y a 30 ans, cette communauté n'existait pas. Et maintenant, nous avons une merveilleuse communauté. Et nous sommes encore en train de fonder des familles. Et ça a demandé beaucoup de temps pour y arriver. Et puis, on a encore des défis à relever. Alors, je pense, enfin, en ce qui me concerne, j'essaie de savoir quelle est votre définition de la qualité de vie. Merci.
Thank you very much, Mr.
Merci beaucoup, Monsieur Wepachi. Alors, il nous a posé quatre questions. Est-ce que vous prévoyez intégrer des pauses pour que les travailleurs puissent se livrer à leurs activités traditionnelles? On a parlé de formation. Y a-t-il une politique de formation continue pour les travailleurs, de sorte qu'ils puissent être embauchés une fois, mais avec les années, qu'ils puissent, en fait, être promus au sein de la compagnie et occuper des emplois un petit peu plus difficiles? Est-ce que vous avez prévu de la formation continue? Troisième question. Est-ce qu'il y a des discussions concernant les valeurs culturelles pour qu'on puisse les intégrer dans les opérations ou dans la pratique ou la culture de la compagnie? Et quatrièmement, en fait, votre définition de la qualité de vie, j'aime beaucoup celle-là. Là. Oui, j'ai bien compris vos quatre questions, c'est ça? Oui. Alors, oui, je les ai bien entendues, vos questions. Elles sont très intéressantes. Tout d'abord, vous avez parlé de périodes traditionnelles qui seraient accordées aux travailleurs pour la chasse ou d'autres activités traditionnelles. Comme j'ai dit plus tôt, nos politiques ne sont pas encore rédigées, mais c'est ce genre de choses, justement, que nous allons inclure. Et avant d'en terminer avec ces politiques, nous aurons probablement des discussions avec les quelques membres de la Nation Cree pour être sûr de bien se comprendre, à savoir d'inclure ce qui est vraiment important pour vous, les membres de la Nation Cree. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est quelque chose que l'on prend en compte et que l'on prendra en compte lorsqu'il s'agira d'élaborer des politiques en matière de ressources humaines, parce que c'est de ça qu'on parle à l'heure actuelle. Deuxième question, pour ce qui est de congés qui pourraient être accordés pour qu'un travailleur puisse avoir une formation supplémentaire. Lorsque la formation est en rapport avec l'industrie minière, c'est facile. Il faut que ça soit incorporé dans les politiques de ressources humaines d'abord, mais oui, on pourra prévoir une poursuite dans le développement des travailleurs. Tout emploi, tout poste dans l'industrie minière est important. Mais il est possible, par exemple, qu'un chauffeur de camion veuille devenir un technicien ou un géologue pour travailler à la mine. Alors, nous aiderons les travailleurs à se perfectionner. C'est important pour une compagnie. Et à l'interne, nous aurons peut-être des cours de formation. Mais pour des emplois précis, ce sera impossible de les fournir à l'interne. Mais ce sera possible pour les travailleurs d'aller à l'extérieur pour obtenir ce type de formation. Et j'espère que cela nous aidera à retenir nos employés pour plus longtemps. S'ils veulent investir un an, deux ans peut-être pour se perfectionner, pour se former. Parce que si c'est ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils sont intéressés effectivement à cheminer dans notre compagnie et nous sommes intéressés à les garder aussi. Pour ce qui est des valeurs culturelles, c'était la troisième question. En fait, lorsque nous avons rencontré les familles impactées il y a 3 semaines ou à peu près, nous avons parlé de cela et nous aurons vraiment besoin de votre aide pour faire en sorte que nous en tenions compte dans notre compagnie. Bon, on a commencé à aborder ces questions avec les gens qui sont déjà dans la compagnie parce que nous préparons notre avenir. Mais ce genre de séance pourrait se produire non seulement avec la direction, mais avec tous les gens qui travaillent dans la compagnie. Parce que les travailleurs vont travailler ensemble le soir, les week-ends, etc. Donc, nous pourrions envisager d'avoir de telles séances avec les 200 travailleurs que nous devrions avoir dans 2 ans, ou à peu près.
Last one, quality of life.
Dernière question sur la qualité de la vie. Comme vous l'avez dit, la qualité de vie pour un non-autochtone ou pour un cri, oui, effectivement, c'est deux choses différentes. La qualité de vie, c'est d'ailleurs différent pour chaque individu, non seulement pour chaque communauté, mais il y a probablement des choses précises auxquelles vous pensez pour votre communauté. Ce que je vois, en fait, chez les non-autochtones, pour ce qui est de la qualité de vie, bien, cette perception change. Il est plus important maintenant de privilégier la famille, les personnes âgées. Et ces notions sont probablement tout à fait différentes des vôtres pour ce qui est de la qualité de vie, je le comprends bien. Mais cela change aussi. Nous allons travailler ensemble, en tant que groupe, en tant qu'équipe, pour voir ce qui est important pour les gens. Est-ce que nous pourrions combiner ou intégrer dans notre entreprise pour inclure le plus d'éléments de votre qualité de vie, de ce que vous entendez par la qualité de vie dans notre culture de la compagnie? Bon, c'était une question assez délicate, je dois le dire.
Very much.
Merci. Avez-vous quelque chose à ajouter? Est-ce que ça répond à votre question, M. Wipachi? Oui, pour le moment. Monsieur Norman Wipachi, avez-vous des questions de clarification? Merci de m'avoir présenté à nouveau. J'aimerais saisir l'opportunité de remercier le comité COMEX de sa présence et BlackRock Metals. En fait, il y a plusieurs commentaires que j'aimerais faire concernant aussi différents éléments qui ont été soulevés. En fait, une des choses sur lesquelles nous nous sommes penchés et sur lesquelles nous avons travaillé avec Catherine Lucey sur les différentes phases, c'est de faire une étude sur le terrain. En fait, nous avons engagé Catherine Lucey, une anthropologue sociale, de documenter tous les sites d'intérêt spéciaux sur la ligne de trapage et surtout sur l'utilisation de la ligne de trapage. Et l'objectif de ce document était d'être utilisé aussi lors de la phase de planification afin que BlackRock soit au courant de tous nos domaines sensibles, que vous voyez bon, où se trouve la fosse, les résidus, les chemins de fer et les routes d'accès. Tous ces zones, éléments-là, en fait, touchent des zones qui sont particulièrement importantes pour les familles. Et l'autre raison pour laquelle nous avons embauché Catherine Lucey, c'est parce que nous voulions utiliser ce document pour sensibiliser BlackRock. Et je sais que, en fait, que permettre aussi à BlackRock de comprendre aussi la valeur culturelle de ce terrain de piégeage et comment nous l'utilisons aussi sur une base quotidienne. Comment Ballyhusky l'a utilisé au début des années 1900, comment mon père l'a utilisé à partir des années 40 jusqu'à aujourd'hui, et comment nous, la jeune génération, l'utilise. Le plan proposé à l'origine par BlackRock, la durée du projet aurait été de 13 ans environ. Et de l'élargir ou de l'étendre à 42 pour les familles impactées serait vraiment un impact majeur, non seulement pour cette génération-ci, mais pour la deuxième, troisième, quatrième génération à l'avenir. Parce que pour nous, il va y avoir cette perte de pouvoir aussi transmettre notre culture à nos fils. Et c'est sur ce site que j'ai tué mon premier orignal, ou mon père a tué son premier orignal. Et cette montagne est très élevée. Une fois que ça va être fini, cette montagne va disparaître. La longueur de la fosse est 2,8 km. 450 mètres de large et 450 mètres de profond. Et j'aimerais que les participants ici notent l'ampleur de ce projet. On peut prendre 15 villages et de le mettre dans la fosse, juste la fosse, sans prendre en compte les bassins de résidus ou de l'empreinte totale. Alors pour nous, il s'agit vraiment de quelque chose de majeur. Et nous parlons encore de possibilités d'accommoder Black Rocks, mais nous voulons nous assurer qu'ils tiennent compte aussi de façon adéquate de nos préoccupations pour assurer que les familles puissent continuer à utiliser les terres pour le piégeage, pour la chasse et pour la pêche, comme nos ancêtres l'ont fait. Pour ce qui est du travail, alors je vous encourage de consulter le document sur lequel nous avons travaillé, en fait, la carte CRI. Il y a sur cette carte beaucoup d'informations qui est très, très importante pour Black Rocks. Parce que j'ai l'impression, en fait, je pense que c'est peut-être le bureau régional, les gens qui vivent à l'intérieur de la région, qui ont communiqué avec nous depuis le début, peut-être un petit peu plus sensibles à nos préoccupations et à l'impact potentiel que ce projet pourra avoir sur les vies, la vie des familles. Et j'ai travaillé pour Black Rock et j'ai l'impression que c'est vraiment le bureau central qui se trouve dans le sud qui doit vraiment comprendre notre façon de vivre, nos habitudes de vie. Il y a une opportunité, je pense, pour y arriver. Peut-être sous forme aussi d'un programme de formation culturelle pour les employés non autochtones, tout comme l'administration et le bureau central. Donc ça serait vraiment quelque chose qu'on pourrait envisager. Un autre élément, nous savons que si Black Rock obtient le feu vert pour aller de l'avant avec le projet, la construction débutera au printemps. Pour moi, comme membre des familles impactées, j'ai un camp et j'ai des activités là-bas. Et je vais parler aussi à mon rôle de directeur des poursuites traditionnelles, c'est d'assurer que le promoteur consulte avec les familles impactées de façon adéquate, ainsi qu'avec la communauté, avant toute construction, avant tout travail de construction. Nous allons devoir savoir quand vous allez commencer, à quel endroit, la route d'accès, où la mine va se situer, où l'usine va se situer, et toutes les activités, afin qu'on puisse se coordonner et qu'on puisse s'assurer que nos activités, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se coordonner. Et ça ne serait pas une bonne idée si Black Rock ne consulte pas aussi par rapport à l'échéancier de la construction. En fait, c'est tout pour le moment. Et je vais laisser aux autres l'opportunité de parler, mais je reviendrai. Merci. J'ai beaucoup de choses à dire. Alors, tournons cela maintenant en question, étant donné que c'est la période de clarification de notre journée ou de notre audience. Peut-être qu'on pourrait avoir davantage de détails sur les trois comités dont vous avez parlé, le comité de liaison, le comité de citoyens et le comité de mise en œuvre Ballyhasky. On pourrait sans doute penser aussi que ce soit donc dans ces forums que ces questions soient discutées. Donc, peut-être nous donner un meilleur aperçu de ces comités, de leur mandat. Et nous comprenons que le lien avec ces comités a été rétabli. Donc, quel échéancier est prévu avant la construction du projet? Et quels sont les stades où on pourra tenir compte aussi des différentes préoccupations qui ont été formulées? Alors, je peux vous expliquer ou vous dire davantage sur les comités qui sont en place. Tout d'abord, le premier comité est en lien aussi avec le ERA que nous avons signé, l'entente Balihaski. Nous avons une discussion tous les deux semaines, toutes les trois semaines, par téléphone. Et ce matin, nous avons mis sur pied un sous-comité découlant aussi du comité de mise en œuvre de l'entente Balihaski. Nous allons continuer à travailler étroitement avec la nation Cree. Et en fait, trois sous-comités seront donc mis sur pied. Le premier étant un comité pour la formation et les deux autres sous-comités feront l'objet d'un appel téléphonique la semaine prochaine. Nous déciderons alors qui siégera sur les deux autres sous-comités. Alors, nous avons aussi le comité de liaison qui découle d'une entente que nous avons signée avec Chibougamau et Chapé, la RBG, et nous avons eu des discussions. Nous avions des réunions au mois d'octobre, au mois de novembre, et la prochaine réunion est prévue pour le 21 janvier. Trois sous-comités ont déjà débuté leurs travaux suite à ces rencontres et la première réunion du sous-comité a eu lieu la semaine dernière. Donc, les sous-comités sont les mêmes que les sous-comités que nous avons pour l'entente Balihaski. D'abord, un sous-comité pour la formation et pour l'emploi. Et le deuxième sera donc les sous-contrats qui pourront être organisés. Et le dernier, en fait, concerne l'hébergement des employés. Alors, ce sont là les deux premiers comités. Le dernier, le comité de citoyens, est un comité qui ne fonctionne pas encore très bien à ce stade-ci. Nous devrions sous peu connaître les noms des citoyens qui seront les membres de ce comité. En fait, il y a eu des discussions par le passé. Récemment, en fait, la rencontre a été annulée et reportée. Donc, c'était une réunion qui visait à nommer les membres du comité, du sous-comité. Je ne sais pas si le comité. Alors, vous parlez donc des différents Chibougamau Chapé et Amestissini. Alors, vous n'allez pas avoir de sous-comité. En fait, les citoyens de Chibougamau siègent déjà sur le comité de mise en œuvre. Mais je ne sais pas si vous pouvez répondre pourquoi ils ne sont pas impliqués dans les autres citoyens, comités de citoyens. Non, ils le sont. En fait, je n'ai jamais vraiment participé. Il y a trois membres de chaque communauté. Et où discutons des aspects culturels? Parce que bon, vous avez mentionné la formation, l'emploi, les sous-contracteurs et l'hébergement, mais où discutons des éléments culturels avec l'accord de mise en œuvre? Bon, en fait, il n'y a pas vraiment un volet culturel spécifique. C'est inclus dans les discussions plus générales. Et bon, avec les familles impactées. Nous avons maintenant une offre de M. Wipachi d'avoir aussi une session pour améliorer notre compréhension de la culture Cree. Je vais demander à Pierre Cossette de continuer sur les aspects culturels qui sont inclus dans l'entente Bali-Husky. Alors, peut-être juste pour compléter un petit peu ce qui a été dit, il y a un chapitre dans l'entente Bali-Husky sur les questions relatives à la culture. En fait, nous avons aussi décidé d'échanger d'informations aussi concernant les sites culturels d'une signification culturelle particulière. En fait, tous les sites ont été identifiés sur cette carte dans le cours des travaux du comité de mise en œuvre. Le sujet sera dûment traité. Merci, M. Cossette. J'aimerais parler un petit peu de l'histoire. Je sais qui vous êtes et je suis très heureuse de vous voir, mais peut-être pourriez-vous vous nommer pour le registre Anna Bolson. Je suis membre de cette communauté et je représente aussi l'association des trappeurs Cree. Et en fait, j'aimerais revenir à l'histoire aussi, l'histoire qui nous a amenés ici. Je suis née en 1952 à Doyle Lake, en 1952, mais mes parents sont encore là. Ma seule préoccupation, c'est que très souvent, je n'ai pas vraiment participé aux audiences de la COMEX ou aux présentations de la COMEX, mais je suis ici aujourd'hui pour représenter les familles Kuchik. Kuchis sont également venus du même endroit, de la zone de chasse que la famille Wipachi. Et n'oubliez pas les familles Kuchi, parce qu'ils font partie de la grande famille. Et je suis contente que mon chef soit ici pour m'entendre et que les membres de la COMEX sont ici pour parler aussi donc des sites prévus. Je sais que c'est la famille Kuchi qui avait ça comme terrain de chasse. Et ça fait longtemps que nous avons observé le développement des mines. Et j'étais sur le conseil de bande en l'an 2000. Et nous devions alors à l'époque aussi rapatrier la famille Kuchi sur ce territoire. Mais rien n'avait été fait. En fait, nous avions reçu le mandat de rapatrier la famille, mais je voulais juste mentionner ce phénomène. Lorsque des projets sont en cours, nous avons quelqu'un ici du nom de Bentley, Francis. C'est le fils de Francis Kuchi. Il y a aussi sa sœur. Les seuls qui restent ici sont encore les femmes de la famille Kuchi, mais ils ont également un fils, Bentley. Lorsque vous avez ce genre d'initiative de formation, ne l'oubliez pas. C'est ce que j'aimerais vous demander. L'entente Bali-Husky, je l'ai vue déjà longtemps parce que cela concernait également cette région. Donc, je voudrais juste vous rappeler que lorsque vous parlez de ces choses-là, n'oubliez pas d'inviter aussi les autres familles afin qu'elles puissent entendre ces informations et puissent apporter leur contribution. Je pense aussi que le fils est ici pour écouter. Et je vous demanderai aussi de vous adresser donc à ces familles si vous avez d'autres éléments dont vous aimeriez discuter. Il y a aussi les aspects traditionnels, culturels, et l'impact sur les chasseurs et les trappeurs, les pêcheurs. Il faut s'assurer dans toutes ces entreprises de s'assurer d'essayer de limiter les impacts. Il y a aussi les changements climatiques dont il faut tenir compte. Parce que nous aussi, nous en subissons les conséquences ici. Merci, Anna. Encore une fois, j'aimerais tourner ça en question de clarification. Étant donné que c'est ce que nous faisons en ce moment, et nous allons pouvoir, bien sûr, entendre des commentaires sur le projet de façon générale un peu plus tard. Alors, à cause de leur mandat, du rôle qu'ils jouent au sein de la communauté, il y a certaines personnes qui sont peut-être dans une position privilégiée aussi pour discuter avec le promoteur, c'est-à-dire avec vous. Mais j'ai compris que vous avez également embauché un agent de liaison. Quel est le rôle de cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui est la liaison entre l'entreprise et la population? Et bon, la question que Mme Bossem a eue, est-ce que ça serait donc de passer à travers cet agent de liaison? Quel est le rôle de cette personne? Oui, vous avez raison. L'agent de liaison, M. James Wapachi, qui est ici aujourd'hui, est donc la personne qui travaille avec nous pour nous aider à travailler avec la population CRI. Il est ici 3 jours semaine dans la communauté et 1 journée par semaine avec nous au bureau. Donc, ce n'est pas parfait comme système, mais il est quand même 3 jours dans la communauté. Et son rôle est de nous aider à comprendre et à bien communiquer aussi avec la population. Nous voulons nous assurer qu'il y ait quelqu'un qu'ils connaissent, à qui ils peuvent parler et rapporter leurs préoccupations. Et nous avons pris note aussi des commentaires de Mme Bossin. James est également impliqué dans les discussions que nous avons régulièrement par rapport au ERA. Alors, y a-t-il d'autres questions de clarification sur la présentation? Alors, j'ai un commentaire, une question. Bon, alors, j'ai entendu souvent, on n'a pas de politique pour ceci ou pas de politique pour cela. Mais c'est une entreprise. Ils ont des politiques, ils ont des employés. Alors, je n'ai pas de politique, ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas de bonne foi. Il y a des employés, donc il doit déjà y exister des politiques. Et s'il y a des politiques pour des employés actuels, et si ce n'est pas suffisamment bon et strict pour les employés de la mine, alors la question est-ce que c'est vraiment une entreprise avec laquelle nous voulons faire affaire? Alors voilà, c'était mon commentaire. La fosse de recyclage, vous avez montré à quoi ça va ressembler dans 42 ans. Je dois dire, je suis très déçue. En 42 ans, vous devriez être en mesure de faire déjà de la réhabilitation pour ne pas avoir un grand trou. Et l'autre aspect, depuis que vous avez fait votre demande d'autorisation, ce n'était pas légal au Canada. Et quelles sont vos idées là-dessus et comment allez-vous... La marijuana n'est pas légale. Vous avez des gens qui opèrent des véhicules lourds. Quelle va être leur limite de consommation de marijuana avant qu'ils viennent sur le site, parce que les effets sont beaucoup plus longs que pour l'alcool, en fait. Et il y a l'utilisation de l'eau par jour. Dans aucune des documentations, ai-je vu un chiffre. Le chiffre que je vois, c'est 100% de ce que nous avons va être recyclé. Mais ça ne parle pas de la quantité qui sera utilisée tous les jours. Et vous avez ajouté l'utilisation d'eau qui va causer également des problèmes environnementaux. C'est pour le dépoussiérage sur les routes, en fait. Parce que cette eau avec la poussière va aller dans les cours d'eau et va avoir un impact négatif aussi sur l'habitat. Et l'autre, c'est une question de clarification. Vous avez posé des questions, on vous a posé des questions par rapport au transport en camion et vous avez contourné ces questions. De ce que j'ai pu comprendre, la question était donc la suivante. Est-ce que le transport par camion ne sera utilisé que jusqu'à ce qu'il y ait le tronçon de chemin de fer construit ou est-ce que vous avez l'intention de continuer à transporter le minerai par camion après la construction du tronçon. Alors, nous avons 5 questions. La première question concerne la réhabilitation. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner plus de détails aussi sur les plans progressifs de réhabilitation que vous avez? Alors, on va y aller un par un. Oui, nous allons avoir des mesures de réhabilitation progressive de la région que nous n'utiliserons plus à l'avenir. Donc, lorsque nous serons prêts, lorsqu'il y aura des zones de la mine qui ne seront plus utilisées, nous débuterons tout de suite avec la réhabilitation. Ce sera donc progressif tout au long des années d'opération. C'est la façon dont nous avons planifié les opérations. Nous allons donc débuter les travaux de réhabilitation dès que nous le pourrons sur le site. Deuxième question, les politiques concernant les drogues et l'alcool. Avez-vous des politiques pour contrôler ces choses-là? Alors, j'ai entendu votre commentaire. Et en fait, nous sommes une entreprise. Nous sommes en train de préparer les politiques des ressources humaines en tenant compte des différents éléments. Alors, malheureusement, il est vrai que nos politiques ne sont pas encore prêtes. Mais ces politiques vont inclure l'alcool et les drogues. Mais rien n'est disponible à ce jour. Pour ce qui est des quantités d'eau, quelles sont les quantités d'eau que vous avez l'intention d'utiliser, sachant que 90% seront recyclés et 10% seront réutilisés ou seront perdus ou utilisés continuellement? Alors, quelles sont les quantités d'eau que vous allez utiliser et d'où viendra cette eau? En fait, nous n'avons pas ces chiffres exacts. Les chiffres que nous avons sont des chiffres qui proviennent de rapports et documents qui existent. Mais nous allons pouvoir certainement trouver cette information d'ici les 20 prochaines minutes. Alors, pour ce qui est de la poussière, nous avons entendu dire que vous allez utiliser l'eau pour contrer donc le trop de poussière et que cette eau va couler dans l'environnement. En fait, nous parlons de deux aspects de poussière. Alors, il y a le matériau dans le camion qu'on veut empêcher de sortir du camion et la poussière qui est causée par le passage des camions. Alors, j'imagine que vous voulez avoir de la clarification pour ces deux aspects de gestion de la poussière. Alors, nous allons recouvrir les wagons. Les wagons seront couverts pour empêcher des émissions de poussière. Pour ce qui est de la route, nous voulons utiliser de l'eau. Nous n'allons pas générer plus de poussière. En fait, la poussière restera où elle est. sur la route pour réduire et éviter des émissions de poussière. Est-ce que j'ai oublié? Pas vraiment. Mais en fait, ce n'était pas seulement la poussière, c'était l'eau que vous mettez sur les routes. Il y aura des fines particules lorsque ça va couler dans l'environnement. C'est là, après, vous allez laver vos routes. Et c'est ce qui va se rendre dans les fossés, dans les ruisseaux, et ça va causer davantage de sédimentation. Et ma question, en fait, concernait les mesures que vous aviez prévues. En fait, toute l'eau, y compris l'eau des pluies, l'eau de contact, sera collectée et traitée. Alors, nous allons avoir des fossés pour collecter. Des 26 kilomètres de route d'accès? Non, je parlais de la mine. Non, la mine elle-même, oui, vous êtes obligé de par la loi, aucune question. Mais ma question concernait la route. Adresser la question, je vous demanderai de m'adresser à personnellement la question.
Oui, there was.
Monsieur Linton a posé une question qui a été laissée de côté, c'est-à-dire qu'il voulait une précision au sujet du camionnage, la durée ou la période pendant laquelle on va utiliser le camionnage. Alors, même après la construction d'un tronçon, est-ce qu'on va continuer à transporter le concentré par camionnage? Alors, la durée donc de l'utilisation du camion pour le transport. Pour le camionnage, nous avons besoin de l'utiliser, ce mode de transport, tant que nous n'aurons pas la fameuse ligne secondaire. Et pour l'instant, nous n'avons pas de financement. On s'attend à ce que dès qu'on aura le tronçon de voie ferrée, le transport se fera par camion. On espère qu'après la construction du tronçon, on n'aura plus besoin de transporter le concentré par camion. Mais nous n'avons pas de financement, je le répète, pour ce qui est de la construction de ce tronçon de voie ferrée. Alors, tout dépend de ça. Peut-être que ça vaudrait la peine de préciser par où passeront les camions. Donc, il y aura, les camions sont utilisés pour transporter le minerai, pour transporter le carburant à la mine. Pourriez-vous nous donner des détails quant aux deux scénarios? Le premier, qui est tout camionnage, combien de passages? Et si on utilise le train comme c'est prévu, alors de combien de passages est-ce que on parle ici? Alors, j'aimerais une comparaison entre les deux scénarios. D'accord. Alors, si on a le tronçon de voie ferrée construit à temps, ça voudra dire qu'il y aura 3 passages de train par semaine pour transporter le concentré. Maintenant, si on parle de camion, 2 fois par jour, donc au changement d'écart, il y aura des passages de camions. On voudrait organiser un système de bus pour transporter nos employés et pour réduire le nombre de passages de camions dans cette région. Mais pendant les opérations, nous aurons besoin de transporter du matériel pour toutes sortes d'usages. Alors, différentes pièces d'équipement. C'est difficile à dire à ce stade-ci. Je pense qu'il y aura quelques passages de camions par jour pour transporter le matériel et les matériaux aussi pour justement le déroulement des opérations. Mais le fait d'utiliser des bus, ça va réduire le fait que les employés utilisent leur voiture entre les cars. Nous devons transporter le concentré par camion, ça veut dire un camion par heure, 7 jours par semaine. Ce sont les chiffres que nous avons à l'esprit pour l'instant.
C'est l'eau qui va circuler tout le temps pour fermer. OK, ça c'est l'eau qui revient du parc. OK.
I have some.
J'ai des chiffres ici. Peut-être pourriez-vous les corroborer. C'est lors d'une communication récente que vous avez faite avec le COMEX. Vous avez dit que le transport par camion serait 25 camions qui transporteraient 100 tonnes par jour. Ça veut dire 50 passages par jour de camions, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En plus, on a parlé de 12 passages pour transporter les employés. Bon, on multiplie par 2, aller-retour. Même chose. Alors, 12 multiplié par 2 aussi pour les matériaux qui doivent être transportés à la mine. Est-ce que ce sont les mêmes chiffres que vous avez vous-même? J'aimerais répondre à cette question. Mon collègue va répondre, donc. Je crois qu'il connaît les chiffres. Je suis Patrice Baudry, VP projet. Pour ce qui est de la construction du projet, je peux parler du transport par rail, etc. On parle de 2400 tonnes par jour qui sont transportées. Alors, on a différents scénarios. Le camionnage, maintenant, on est prêt à utiliser donc 12 camions par jour. Comme Yves l'a dit, c'est pratiquement un camion ou un passage par heure, parce que ce sera un camion vide à l'aller et puis un camion plein à l'aller, camion vide au retour. J'aimerais rappeler à tout le monde que les questions qui sont soulevées aujourd'hui, nous avons des réponses à ces questions, nous avons des portions de réponses, mais j'aimerais vous rassurer et vous dire que toutes ces questions seront reprises pour que nous puissions offrir des réponses plus détaillées et plus complètes à ces questions. Alors, tout ceci sera consigné. Avez-vous d'autres questions ou avez-vous des précisions? Sinon, nous allons prendre une pause et nous allons passer à la période d'opinion. Je m'excuse, j'ai les chiffres pour la recirculation de l'eau. Si vous en avez besoin, allez-y. On vient de me les remettre il y a quelques instants. Merci beaucoup. Alors, l'usage de l'eau dans l'ensemble, l'eau recirculée, serait 1800 mètres cubes par heure. Ça veut dire que ça représente 90 % de l'eau dont nous aurions besoin. Et nous aurons environ 175 mètres cubes d'eau douce dont nous aurons besoin pour les salles de bain, pour les douches et d'autres opérations plus précises à l'usine. Mais essentiellement, en fait, ces 175 mètres cubes, c'est pour usage par les travailleurs. Alors, une autre précision? Merci, Monsieur le chef. Je suis Quarters Possum, je suis le chef de la communauté CRI. Alors, une autre question, une précision. Bon, premier scénario, c'est la voie ferrée, le tronçon de voie ferrée. Alors, la certification d'autorisation précisait que ça se fondait, en fait, sur le tronçon existant, le tronçon qui existerait. Étant donné que vos calculs parlent de 830 000 tonnes, est-ce que ce volume va augmenter pour ce qui est du transport avec ce tronçon de voie ferrée? Ou est-ce que le tonnage se fonde sur la capacité de l'usine? En fait, ce sont les chiffres qu'on nous a fournis, incluant les opérations de l'usine. Bon, ça dépend de la taille de l'usine et de la fonderie qui sont construites. Ça pourrait augmenter un petit peu, mais nous n'avons pas, en fait, beaucoup de marge de manœuvre pour ce qui est d'une grosse augmentation avec l'usine que nous allons construire. Alors, nous avons travaillé avec plusieurs compagnies d'ingénierie et ce sont les chiffres auxquels ils sont arrivés. Avec un Comment déterminer la capacité des opérations? Comment est-ce qu'on a décidé de la capacité, en fait, de la Syrie au Saguenay? Je vais répondre à cette question. Allez-y. Il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été réalisées. Si vous vous souvenez bien, en 2013, nous parlions de 3 millions de tonnes par année de concentré. Nous avions commencé à envisager de produire un produit à base de résidus miniers. Ça s'appelait de l'ilménite.
Assume she's very good, though. Okay. So at that time,
à ce moment-là, nous transportions 3 millions de tonnes. Ça, c'est le permis que nous avions. Et nous avions une latitude pour transporter 750 000 tonnes de plus. À ce moment-là, on envisageait utiliser le rail seulement de Chibougamau à Saguenay. Alors, il a fallu réviser notre plan d'affaires, bien sûr, à cause du marché, à cause du prix des métaux qui chutait. Alors, ce que nous avons fait au cours de la dernière année, c'est que nous avons pensé à une usine de deuxième transformation. Alors, on a regardé le marché et on a examiné aussi les besoins du marché pour le titane, pour le vanadium et pour le fer. Alors, nous sommes arrivés à une capacité de la fonderie, pour le produit fini. Nous sommes arrivés à ce chiffre que nous avons dans notre étude. En nous fondant sur cette analyse, c'est ainsi que les besoins ont été déterminés sur le site minier. On a parlé de plus ou moins 830 000 tonnes. Et de toute évidence, si nous voulons augmenter ce chiffre, nous devrons envisager d'inclure de nouveaux produits et d'augmenter la capacité de l'usine. Pour l'instant, on pourrait augmenter la capacité de la Syrie de 20 % facilement, mais doubler la production, ça, c'est une autre histoire. Mais comme on l'a déjà dit, à l'heure actuelle, selon notre plan d'affaires, la production n'est pas à la hauteur, mais très rapidement, selon nous, s'il y a une demande sur le marché, on pourrait aussi produire de l'ilménite. Alors, à ce moment-là, si on changeait la Syrie, nous avons différentes possibilités qui s'offrent à nous. On pourrait ajouter 250 000 tonnes de plus, donc ça représente 20 %. Ça voudrait dire 1 million 3, 1 million 4 tonnes par jour qui seraient produites, qui seraient transportées à Chibougamau dans un très court laps de temps. Est-ce que ça répond à votre question, chef Bossum? Oui, pour l'instant. Est-ce que quelqu'un aimerait avoir d'autres précisions? Je m'appelle Paul Chikape, d'Ujebogumo. Alors, j'aimerais revenir à l'article 22,2,4. Bon, ici, on parle de minimiser les effets désirables sur l'environnement et sur les communautés autochtones par des moyens raisonnables. C'est tout à fait impossible de prédire quelque chose comme ça, parce que si vous regardez ce qui se passe dans les communautés et les différents développements, en fait, auxquels elles ont été assujetties au fil des ans, comment pourrais-je l'exprimer? L'impact social est très élevé sur la nation Cree. Moi-même, j'étais superviseur lorsque je travaillais à IM1 et je peux dire que quelquefois, il fallait que je garde des choses confidentielles. Lorsqu'il s'agit de la santé des individus, ils arrivent en pleine santé, mais les effets sur la santé, soit à cause du site de travail, je dirais que les conditions sont pas très bonnes pour la santé. Quelquefois, les compagnies cachent des choses, surtout si on regarde l'individu lorsqu'il arrive et qu'il a son évaluation médicale. Eh bien, c'est la seule fois où il voit son dossier médical. Mais de nos jours, le gouvernement et les compagnies peuvent facilement changer ce rapport. ce dossier médical de l'individu. Ce que j'essaie de faire ressortir ici, c'est que quelquefois, si vous regardez un individu qui arrive pour travailler, alors, et que, en fait, que la personne fume, ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement avoir un cancer dans les 10 minutes. Il faudra 10, 15, 20 ans pour développer un cancer. Ça va être la même chose pour la nation CRI, surtout si il n'y a pas, en fait, de santé et sécurité au travail prévue, si l'équipement n'est pas fourni, en fait, pour les maintenir en santé. C'est deux fois plus dangereux pour la santé si cette personne est un fumeur. Étant donné ce qu'il extrait et qui va dans l'environnement. Encore une fois, ce que je veux souligner, c'est ceci. Quels sont les avantages que ces individus pourraient retirer de la compagnie, d'une compagnie minière, en fait? Qu'est-ce qu'ils pourraient retirer comme avantage? Bon, quelquefois, donc, on s'attend à ce qu'une vie vaille 5 millions de dollars si la personne est jeune. Lorsque c'est terminé, lorsque la personne n'a plus son emploi, il ne reçoit rien. Lorsqu'on parle de régime de retraite, je sais, et c'est un fait, parce que lorsque on a développé une mine, on nous a assuré, en fait, qu'on aurait des avantages après 25 ans, mais on n'a jamais rien vu. On n'a pas vu la couleur de cet argent. Alors, lorsqu'il y a de telles promesses qui ne sont pas tenues et qu'on voit l'impact social sur ces gens, si on parle de santé notamment, je crois qu'il est très important d'être clair, d'identifier les politiques et les dangers et puis d'informer les gens, de leur donner leur juste. Merci beaucoup. Encore une fois, on revient à la question de mesures ou de politiques en matière de santé et sécurité. Qu'est-ce que vous envisagez à cet égard? En tant que responsable des politiques en matière de ressources humaines, les politiques ne sont pas prêtes. Nous allons commencer les opérations dans 2 ans et les gens des ressources humaines vont commencer très bientôt à travailler sur ces politiques. Nous allons travailler avec Santé et Sécurité au travail, la CSST, c'est la base, et nous voulons absolument mettre en place des bonnes politiques de santé et sécurité au travail selon la loi. Et gérer la compagnie prévoit que l'on implique l'individu lui-même pour ce qui est de la santé et sécurité au travail, qu'on le mette bien au courant des politiques en matière de santé et sécurité au travail. Et le fait d'impliquer les gens qui y travaillent à la compagnie, c'est la meilleure façon de voir comment on devrait aborder la question de la santé et la sécurité et d'une façon sécuritaire.
Do we have another?
Est-ce qu'on a une autre question, précision? Allez-y, monsieur. J'aimerais poser 2 questions. Dario Massi est mon nom. Je suis l'administrateur environnemental pour la communauté. Ici, j'aimerais poser une question au promoteur de BlackRock. Avez-vous une estimation pour ce qui est de l'empreinte carbone sur une période de 42 ans. Bon, une collègue ici a parlé de changement climatique et ça m'a fait penser aux effets sur le long terme de l'empreinte de carbone. En fait, la taille du projet... par rapport à cette empreinte carbone. Est-ce que vous avez des chiffres à cet égard? Est-ce que vous allez, en fait, étudier cette question à l'avenir? 2e question. Si on revient à la page des principes directeurs,
je
pense que c'était la page suivante. C'était J, je crois. Non, c'est I. Minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et le milieu social sur les peuples autochtones et sur les communautés autochtones par des moyens raisonnables. Lorsque je regarde ce projet et le territoire où les opérations auront cours, si on regarde 059, où il sera situé, je pense aux impacts cumulatifs. Et je ne vois pas ça dans le libellé ici. Et je me demande si COMEX prend en compte ces impacts cumulatifs dans les principes directeurs.
If you look at this small
si on regarde le petit territoire où nous vivons, les impacts cumulatifs sont très lourds, je dirais. Si on pense à des projets de développement, on a la foresterie, les mines abandonnées, l'exploitation minière. Bon, l'exploitation minière, ça peut être très dangereux. Vous avez la municipalité ici de Ouje-Bougoumou. Et il y a les townships qui sont sur la ligne de piégeage. Leur développement, leurs activités, la municipalité, enfin, tout ceci se fait dans la municipalité. Et je me disais qu'il faudrait que COMEX prenne en compte cet aspect. Enfin, c'est la question que je pose. Vous allez prendre cet aspect en compte, j'espère. Merci. Je vais commencer par la deuxième question en ce qui a trait au COMEX. Oui, en fait, et en fait que c'est une exigence, la question de prendre en compte les impacts cumulatifs. Oui, vous avez mentionné quelques éléments de ces impacts cumulatifs et les impacts au fait des émissions de gaz à effet de serre, du changement climatique. Cela fait partie du tableau aussi pour bien comprendre comment nous travaillons. Lorsque le promoteur nous donne une évaluation d'impact, si cette évaluation n'inclut pas les impacts cumulatifs. Si les impacts cumulatifs ne sont pas suffisamment abordés, c'est pourquoi nous sommes ici, c'est pourquoi nous avons nos analystes qui analysent la question. Nous avons toujours beaucoup de questions supplémentaires par rapport à ce qu'on nous remet comme dossier. Et les impacts cumulatifs, c'est l'un de ces éléments, en fait, sur lesquels nous allons nous pencher, ainsi que les autres éléments que vous avez parlé. Maintenant, qu'en est-il pour ce qui est de l'empreinte carbone? Peut-être pourriez-vous nous donner des détails, parce que vous en parlez dans votre document. Pourriez-vous nous donner des détails là-dessus? Nous n'avons pas les chiffres comme ça en tête. Nous les cherchions, mais malheureusement, nous devrons vous remettre ces chiffres, enfin, pour l'empreinte carbone, ultérieurement. Que ce soit pour les gaz à effet de serre ou les impacts sur la faune ou sur les habitats des poissons. En fait, vous faites la caractérisation. Mais M. Masti a parlé du fait qu'il faudrait qu'il y ait une référence à laquelle se comparer et entreprendre des mesures d'atténuation pour réduire les effets, les impacts de l'exploitation d'une mine. En ce qui a trait aux gaz à effet de serre, avez-vous des objectifs, des cibles afin de les atténuer et de les réduire? Peut-être que vous pourriez avoir une politique là-dessus. Si on fait référence au GIEC, en fait, qui nous a parlé de 2050, qu'il faudrait que tous les pays, en fait, atteignent la cible zéro d'émission. Mais avez-vous prévu un programme auquel vous pensez pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre? Oui, nous travaillons à ce projet depuis 2008. Nous avons des rapports, des études que nous avons réalisées depuis lors, en 2011, 2013 et maintenant, nous essayons d'améliorer ce que nous avons fait et nous voyons toujours à réduire les gaz à effet de serre, les empreintes carbone, etc. Alors, maintenant, donc, nous avons un plan pour amorcer nos opérations et nous avons un plan aussi pour continuer de l'améliorer au fur et à mesure. Alors, pendant les opérations, nous allons continuer et nous allons surveiller la situation pour améliorer ce que nous avons déjà. C'est la troisième fois, dirais-je, que nous avons amélioré nos chiffres et selon nos connaissances actuelles, ce sont les meilleures mesures que nous avons trouvées. Peut-être que dans un ou deux ans, nous allons trouver une meilleure façon, en fait, réduire tout ceci. Peut-être pourriez-vous parler des impacts cumulatifs. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous planchez dans ce domaine? Alors, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour ce qui est des impacts cumulatifs? Je vais demander à Jacqueline de répondre à cette question. C'est vrai que pour ce qui est de ce projet, lorsqu'on regarde la ligne de piégeage, nous savions qu'elle était déjà impactée et que peu de territoires terrestres étaient disponibles parce que le lac Chibougamau est sur cette ligne de piégeage. Nous comprenions alors que nous devions réduire l'empreinte dans la mesure du possible et nous devions aussi prendre en compte les autres projets comme les parcs d'éoliennes et les lignes électriques, des choses comme ça. Notre façon d'étudier les impacts cumulatifs, c'était de prendre en compte les préoccupations des familles et l'héritage culturel de ce territoire. Il s'agissait de travailler dans la mesure du possible avec les communautés pour protéger les aires les plus sensibles. Ça a été un défi pour certains de ces aspects parce que la mine est déjà située sur une montagne qui est très précieuse, qui a beaucoup de valeur pour les gens. Ça, nous l'avons compris. L'autre élément d'équation, c'est que pour ce qui est de l'aspect culturel, étant donné que la ligne de piégeage est constamment réduite, non seulement à cause de notre projet, mais aussi à cause des autres projets et des projets qui s'ajouteront à l'avenir, ce sera important pour nous de travailler de concert avec les communautés et les familles pour préserver l'héritage culturel. C'est un défi et que nous devrons relever. Nous sommes au courant de cela, qu'il y a moins de superficie terrestre. Par conséquent, il faut travailler ensemble pour essayer de résoudre le problème. Pendant quelques minutes encore, je vais demander à Alexandre, mon collègue, de répondre à la première question. Oui, allez-y. Je voulais répondre à la question portant sur les émissions de gaz à effet de serre. BlackRock a pris une décision stratégique il y a quelques années d'utiliser le gaz naturel. Et ça, c'est très important. Vous avez vu la carte de nos concurrents. Ils sont en Russie, au Brésil et en Ukraine. Ces compagnies utilisent le charbon qui est malheureusement la norme dans notre industrie. Nous avons décidé d'utiliser le gaz naturel. Le résultat, c'est que nos émissions ont chuté de plus de 800 000 tonnes. Si on regarde le projet dans son ensemble, donc il y a eu un déclin de 60 % En outre, BlackRock s'est déjà engagé pour faire partie du marché carbone une fois que nous entamerons nos opérations. Alors, nous allons payer pour nos émissions pendant les 42 prochaines années, selon la durée, en fait, du marché carbone. Alors, ça, c'est un engagement que notre groupe a fait. Au fur et à mesure, nous allons payer de plus en plus et au fur et à mesure où le prix du carbone augmentera. Et c'est très important de comprendre ça. Nous avons pris ces décisions stratégiques, même si elles nous coûteront cher sur le long terme. Et si on regarde ça d'un point de vue mondial, nous serons l'un des joueurs les plus verts au monde pour ce qui est de notre réduction d'empreinte carbone. J'espère, monsieur, que ça répond à votre question au sujet des émissions. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ou de précisions avant que nous prenions une pause? Je vais regarder la liste. Combien de gens se sont inscrits pour faire une présentation? Nous avons 3 personnes, Vanessa. Étant donné que nous avons 3 intervenants, nous avions l'intention de revenir ce soir pour les mémoires, mais étant donné que nous n'avons que 3 personnes qui se sont inscrites sur la liste pour présenter ces mémoires, je proposerais que nous ayons une pause de 15 minutes et qu'ensuite nous entendions les mémoires. Ainsi, nous pourrions terminer à 5 heures. Si vous estimez que cela vous convient, que cela convient aux gens dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas là, qui prévoient venir ce soir pour exprimer leurs commentaires? Non? Donc, ça vous irait si nous terminions à 5 heures.
On peut laisser de la place pour s'il y a des questions encore.
On peut laisser de la place, je pense qu'il y a plus de questions.
Let's just go on.
Okay.
Can we have a pause and then talk?
Okay.
We're sorry.
Excusez-nous. Donc, nous aurons une pause. Après quoi, nous vous donnerons des informations plus précises quant au déroulement du reste de la séance. Alors, une pause de 15 minutes.